Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous avons le grand plaisir et surtout le grand honneur d'avoir Hicham Alaoui parmi nous. C'est une personnalité importante du monde arabe. D'abord, appartenant à la famille royale marocaine, il est le petit-fils de Mohamed V. Il est aussi par sa mère apparenté à une grande dynastie politique libanaise, qui a elle-même aussi des branches en Syrie. Enfin, il se raccroche aussi à la famille royale saoudienne. Donc, en ce sens-là, j'ose dire qu'il est le monde arabe, non pas du Golfe à l'océan, mais de l'océan au Golfe. C'est quelqu'un qui a écrit un livre absolument magnifique que je vous conseille absolument de lire. Journal d'un prince banni, qui est à la fois une recherche de soi-même, une enquête sur soi-même, sur son histoire et sur son trajet, et en même temps avec l'ombre permanente dans toutes ces pages du roi Hassan II, son oncle, qui est décrit à la fois avec force et puissance et en même temps admiration et peur. Donc c'est un livre que je recommande absolument. Mais celui que j'ai connu sous le nom de Moulay Hicham, prince Hicham, mais je l'appelle toujours Moulay parce que c'était l'habitude qui a été prise à l'époque, puisque nous connaissons depuis une quinzaine d'années maintenant, grâce à Rémi Levaux, dont je salue la mémoire ici, qui était professeur à Sciences Po, mais qui a été aussi maître de moi, je l'ai connu comme conseiller culturel en Égypte, et avant, il a joué un rôle important au Maroc. Et Moulay Hicham, en dehors de ses origines royales, a travaillé sur de multiples plan, d'abord comme homme d'affaires, mais aussi comme défenseur des droits de l'homme. Il a eu des fonctions de l'ONU au Kosovo, à côté de Bernard Kouchner. Il a aussi travaillé pour Human Rights Watch, et puis j'oublie l'autre aussi, ONG des droits de l'homme, pour lequel il a travaillé, mais aussi il s'est lancé dans une entreprise depuis la fin des années 90 d'industrie de dépollution au service donc de la lutte contre les différentes pollutions et contre le réchauffement climatique. Il a une compagnie à Tayar qui gère ces affaires-là. Et c'est surtout un intervenant politique en français, en anglais, en arabe, sur l'ensemble de la scène arabe, en français en particulier par le biais du monde diplomatique, mais aussi en anglais. Il a une thèse dont il va vous parler aujourd'hui, qu'il vient de soutenir à l'université d'Oxford. Je ne dirai par politesse pas le nom de la personne qui l'a dirigée. Il a aussi des diplômes de Princeton et il vit actuellement à Boston, si mes souvenirs sont bons, puisqu'il s'est exilé du Maroc. Et alors, à faire à mesure que je le connais, je vois que son espace géographique dans le monde arabe se restreint parce qu'il se fait interdire de pays en pays à cause de ses différentes interventions politiques sur la démocratisation du monde arabe. Et donc, il vient de prendre récemment la décision que regrettent tous ses amis d'abandonner son titre princier et donc de passer de Moulay Hicham à Hicham Alaoui. Mais nous le connaissons trop bien pour savoir qu'il reste tout à fait royal dans ses actes. C'est à vous, cher ami.
Merci beaucoup, merci Henri pour cette introduction fort généreuse. Effectivement, ma famille brasse beaucoup de territoires et je me demande, même cette salle dans laquelle on est Marguerite ou Marie de Navarre, c'est peut-être, je découvrirai peut-être que c'est une tante éloignée un jour. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les organisateurs, à tous ceux qui m'ont invité. Merci au Collège de France. Merci à vous tous qui êtes venus aujourd'hui pour cette conférence que j'espère sera intéressante. Le titre de cette conférence, comme vous le voyez, est là. Pour la résumer en un seul mot, plus ou moins une seule phrase, c'est une tentative de réconcilier démocratisation et sécularisation. La genèse de ce projet est arrivée en 2012 à Édimbourg, où je préparais à intégrer l'Université d'Édimbourg pour mon doctorat. Finalement, j'ai atterri à Oxford. Les origines lointaines de cette réflexion on peut tracer leurs origines à 1900, milieu des années 90, où je réfléchissais déjà à ces questions de démocratisation et islamisme et islamisme. Un disclaimer, je sais que c'est en anglais, mais je sais aussi que c'est un terme consacré que je vois apparaître en droit français. Donc, mon anglais et mon arabe sont meilleurs que mon français. Beaucoup de la littérature sur la transitologie est en anglais et en espagnol, donc il y aura forcément des anglicismes. J'essaierai de les adresser, de les corriger. Je vais vous présenter un PowerPoint qui sera, j'espère, d'une heure. Je vais le lire avec vous. Ça me permettra de m'arrêter à des endroits particuliers pour mettre l'accent sur des questions que je pense et des arguments que je pense être tout à fait importants. Alors, islam, laïcité, le pacte démocratique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, d'emblée, nous avons un problème avec le terme laïcité. Parce que j'aurais voulu utiliser le mot sécularisme, mais je sais qu'en français, il est peu utilisé ou pas du tout. Donc, si on parle de laïcité, il faut évoquer un autre concept ici, qui est celui de la sécularisation, ou plutôt de la religiosité, qui apparaît à trois niveaux, qui apparaît d'abord dans la gouvernance, dans les institutions de l'État, au niveau de la société et au niveau aussi de la vie personnelle des croyants. Donc voici une belle photo d'un orientaliste qui représente la prière du soir au Caire. C'est une scène que vous pourriez voir à Cambridge, à Boston, dans un parc. Vous pourriez aussi la voir ailleurs en Europe, mais certainement vous ne la verrez pas en France. Parce que laïcité veut dire tout simplement le cantonnement, le bannissement de la religion strictement à la sphère privée. Par contre, en Europe, il y a des accommodements. En Allemagne, par exemple, l'État allemand finance le culte, que ce soit le culte protestant, le culte catholique ou même le culte musulman. J'ai avec moi un dollar américain qui est un promissory note du trésor américain, c'est-à-dire que c'est effectivement, essentiellement, comme diraient les économistes, une lettre de crédit d'un dollar qui est dont l'État américain s'engage à honorer. Derrière le portrait de George Washington, il y a cette annotation « In God we trust ». En Dieu, nous nous soumettons à Dieu, en Dieu à notre confiance, quelque chose comme ça. Bon, c'est quand même quelque chose qui montre les différences. Vous ne verrez jamais ça sur un billet de francs français ou même d'euros. Donc, c'est pour vous dire que l'étendue de la sphère ou du spectrum d'accommodement est très variée dans le monde. Le contexte théorique, bien sûr, l'héritage de l'orientalisme dénature encore notre approche de la politique dans les sociétés musulmanes. De vieux débats sur la compatibilité entre l'islam et la démocratie persistent. Mais il y a une nouveauté. La nouveauté, c'est que le printemps arabe et sa deuxième vague ou extension, c'est là un sujet de débat, nous permet de considérer les perspectives démocratiques de la région et le futur de la laïcité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. C'est-à-dire que le peuple est rentré par effraction dans les institutions et qu'il décide maintenant de construire ou d'écrire son avenir de lui-même. Il y a seulement 5 ans de parler encore de printemps arabe. Nous, nous le faisions dans la fondation Hicham Alaoui avec la direction d'Henri Lorenz, de Khadija, Mohsin Finan et d'Olivier Roy. C'était même ringard et passéiste. C'était une affaire finie et ça ne servait à rien d'en parler. Finalement, le printemps arabe est un processus et ce n'est pas un événement. Donc l'histoire continue. Le débat islam-démocratie. Le débat islam-démocratie a engendré historiquement deux écoles de pensée concurrentes concernant le rôle de la religion en politique. Les sceptiques soutiennent que l'islam est allergique, qu'on ait même une aversion à la laïcité en se fondant sur la théorie de la modernisation, alors que la démocratisation nécessite in primis la séparation du politique et de la religion. Ça veut dire que c'est un prérequis. La laïcité est un prérequis pour toute démocratisation. Alors, je dirais un mot sur essentiellement celui qui exemplifie par excellence cette pensée. Je pense que c'est Bernard Lewis, pour qui, en islam, il n'y avait pas de distinction entre César et Dieu, c'est-à-dire entre la sphère de César et la sphère de Dieu. Et donc, en islam, il ne pouvait pas y avoir cette séparation. Les sceptiques sont à l'origine des projets néo-orientalistes qui cherchent à réformer ou à civiliser l'islam d'abord, comme prérequis à la démocratisation, ce qui induit un réductionnisme historique et reproduit le présupposé ethnocentrique de la théorie de la modernisation. Alors, dans sa manifestation la plus extrême, ce projet, bien sûr, trouve des itérations et trouve, bien sûr, des représentations en politique. La politique des néocons, des néoconservateurs aux États-Unis est l'exemple archétype de cette pensée. Les Arabes ne pourront sortir de leur archaïsme que si on les occupe et si on bombarde et si on prend une action militaire. Dans sa formulation encore abjecte, il y avait bien des généraux dans le Pentagone qui disaient que l'islam n'est pas une religion, que c'est une idéologie. Et comme une idéologie guerrière, il fallait la détruire. Et si on arrivait à détruire les centres politiques, à ce moment-là, la sécularisation viendra de manière naturelle. Les optimistes, de leur côté, soutiennent que nous pouvons réinterpréter la tradition islamique en se fondant de manière scriptuaire et que ce processus peut permettre la constitution de démocratie libérale qui trouve d'authentiques arrangements entre foi et politique. Alors, l'argument, il y a beaucoup de variations dans cet argument, mais essentiellement, ça veut dire, en gros, que nous prenons comme point de départ les sources scriptuaires et canoniques, scriptuaires, c'est-à-dire le Coran, les sources canoniques étant le hadith, et que nous pouvons court-circuiter des siècles de pensée et aller directement aux sources pour réinterpréter l'islam de manière qui soit plus souple et amène à engendrer une démocratisation. Dans ses formes moins extrêmes, cette thèse appelle à ce qu'on retourne au corpus pendant 14 siècles et qu'on construise dessus des thèses et de construire des interprétations de la foi qui permettent une démocratisation. Bon, les adeptes de cette approche sont nombreux. J'en citerai que quelques noms. Talal Assad, Sacha Dina et bien sûr l'infatigable Abdelkrim Sorouch. Alors, cette thèse essentiellement équivaut à placer la théologie avant la politique. L'expérience islamique est différente de l'expérience occidentale. Par exemple, les sociétés de la région MENA ont été exposées à la laïcité de style occidental relativement tard à travers le colonialisme. Dans l'histoire islamique classique, le pouvoir politique et l'autorité religieuse se chevauchent mais n'ont jamais été fusionnés en une seule institution après le prophète Sidna Mohammed. Ce que je veux dire ici, c'est que la thèse de la réforme, de la nécessité de réformer, est un peu faible quand on arrive à l'islam. Pourquoi ? Parce qu'en islam, jamais est-ce que l'autorité politique et l'autorité religieuse ont été fusionnées en une. Ce sont toujours été des autorités totalement différentes. Une relevée des ulamas et l'autorité politique relève du calife. Bon. Ils ont été fusionnés que relativement tard, après le colonialisme, où l'État central a pris le contact avec l'Occident et intégré les ulama en tant que fonctionnaires et carrément s'est approprié l'espace religieux. Mais avant, si vous preniez par exemple cet espace, ce plan-là, vous avez sur un axe l'éminent, c'est-à-dire les relations avec la société, les relations dans la société, et de manière verticale, vous avez le transcendant, la relation avec Dieu. Et bien, cet espace, ce plan entier, était policé, régi, contrôlé par l'Église. Ce n'est pas le cas dans l'islam. Dans l'islam, les ulama avaient un droit de regard et le calife était loin de ce plan. Et donc, les croyants, dans l'exercice de leur foi, se tournaient vers le alim pour qu'il les dirige. Le calife n'avait rien à voir avec ça. Et donc, c'est une différence de taille. Les musulmans ne se posaient pas la question de la sécularisation parce qu'il n'y avait pas un empiètement, il n'y avait pas des excès de l'interprétation de la foi. Et donc, il me semble, quand on demande de réformer l'islam, c'est un raccourci. Bon, c'est vrai que le problème de la sécularisation se pose et que les gens veulent vivre leur foi de manière différente avec les temps modernes. J'avance. Alors, ce que je propose, en fait, c'est que nous mettions la politique avant la théologie. Je propose ce que d'autres ont proposé, mais je le propose à ma manière. Et donc, ainsi le lien islam-démocratie est en fin de compte une question théologique qui prendra des générations de réflexion et de réfutation chez les musulmans pour se jouer. C'est-à-dire que si on attend que ce débat se résolve dans les manières ou selon les paramètres occidentaux, nous n'allons jamais en finir. Dans les scénarios du monde réel, les moments de transition politique forcent les acteurs à faire des choix immédiats concernant les élections, les constitutions ou la gouvernance. En nous libérant des débats purement théologiques, nous pouvons aussi aborder l'interaction entre politique et religion dans des contextes culturels différents, comme celui du Concile du Vatican de Vatican II. En fait, la thèse ou l'argument est le suivant. La politique est forcément liée à la religion ou forcément va connaître une interaction avec la religion. Et à chaque fois que le politique et le religieux rentrent en contact, c'est souvent, on peut le dire ici, il faut faire attention quand on le dit ailleurs, ou la manière dont on le dit, c'est le religieux qui cède. Il cède avec les formes, avec bien sûr toute l'aura de la religion, mais c'est souvent la politique qui l'emporte. Et c'est la religion qui s'adapte. Je continue. Aujourd'hui, islamiste et laïque, et le contexte régional. Dans les révolutions du printemps arabe, l'ancien régime souffre de l'effondrement populaire et les élites dirigeantes se dissolvent. Dans la région MENA, au cours de ces transitions, les deux forces politiques qui se disputent le pouvoir sont souvent les islamistes et les laïcs en deux divisions incompatibles de l'ordre politique. Quand la poussière retombe, le clivage dominant ou la faille saliente est sur la scène politique concerne le rôle de la religion dans la structuration de la loi, du pouvoir et des institutions. La Tunisie de post-Ben Ali et l'Égypte post-Moubarak peuvent servir d'études de cas pour illustrer ces dynamiques. Bien sûr, quand j'ai commencé ce projet en 2012, il n'y avait que deux candidats à étudier. Il y avait des soubresauts partout, allant du Maroc au Koweït et au Bahreïn. Mais les deux cas de vraiment où on a connu des moments politiques et une rupture politique, c'était bien la Tunisie et l'Égypte. Le pacte vers la démocratie. Alors, c'est une étude qui est interdisciplinaire. Le cœur de l'argument est un cœur de transitologie, c'est-à-dire de sciences politiques, combien même il s'adosse à l'histoire et aux études islamiques. Donc, lorsqu'un conflit est dans l'impasse, les théories du pacte démocratique des sciences politiques comparées offrent une voie, la théorie du pacte. La théorie du pacte fait référence à des négociations entre des rivaux antagonistes à l'extrême, tels que les islamistes et les laïcs, pour qui la seule alternative possible est de perpétuer un conflit insoluble et une disparition réciproque. Alors, soyons clairs, cette théorie des pactes a été élaborée pour étudier la troisième vague de démocratisation, c'est-à-dire celle qui commence en 1974 avec la fin du régime Salazar et qui s'étend dans les années 90. Elle concerne essentiellement les pays d'Amérique latine et quelques pays de l'Europe. Donc nous parlons d'une soixantaine de pays. Et il ne s'agit pas d'islamistes, il s'agit de gauche et de droite. Et bien sûr, le différent était le projet de société où l'économie jouait un grand rôle. C'était la présence de l'État dans l'économie. À gauche, on voulait que l'État ait un rôle prépondérant. À droite, avec les alliances, les connexions américaines entre la droite, en Amérique latine et les États-Unis, bien sûr, on voulait le moins d'État possible, d'où l'expression que vous connaissez, qu'on entendait souvent au Chili, ou se relatant au Chili, les Chicago Boys, les Boys de Chicago qui, bien sûr, conseillaient Chile et grand d'autres, Pinochet et grand d'autres de juntes militaires. Alors, avec la faille islamisme laïque, bien sûr, le problème est différent. Il est beaucoup plus difficile parce qu'il s'agit de quelque chose qui est normatif, qui est émotionnel ou émotif, je ne sais pas ce qu'on devrait utiliser en français, mais enfin vous comprenez l'idée, et donc c'est quelque chose de beaucoup plus tendu et d'explosif. Les élections et les constitutions, here, et le constitutionnalisme sont alors les moins pires des solutions, et même les pires adversaires peuvent apprendre à la tolérance mutuelle et se soumettre à leurs revendications politiques, à une incertitude institutionnalisée, aussi désagréable soit-elle. C'est un argument qui a été élaboré bien avant. Il s'agit de « elite settlements », c'est-à-dire des compromis entre élites. Et on peut dire que la Magna Carta, par exemple, qui a été écrite il y a des siècles, est un arrangement entre élites, est un arrangement entre la classe économique dominante et la monarchie anglaise, avec aussi des représentants du peuple. Donc ce n'est pas nouveau. Mais la théorie des pactes, essentiellement, l'applique à des nouveaux cas de démocratisation. Ce matin, j'ai choisi d'inverser les diapositives, donc je reviendrai à cette diapositive tout de suite. Je vais commencer par là. Et je voudrais que vous portiez votre regard sur ça d'abord. Ces quatre paragraphes. Dans une perspective comparative, les pactes démocratiques deviennent possibles lorsque trois conditions sont remplies. La polarisation idéologique, c'est-à-dire une extrême rivalité entre deux tendances, la parité du pouvoir entre rivaux, c'est-à-dire égalité harmonieuse. Alors par parité, je veux dire une situation dans laquelle aucun des adversaires ne peut nécessairement gagner. Et ça veut dire la somme des forces. Ces forces peuvent être économiques, militaires, mais aussi l'adhésion du peuple à un camp ou à un autre. Donc la parité, c'est la combinaison de ces vecteurs. Ensuite, finalement, la diversité normative, c'est-à-dire pas de bons gars clairement identifiés. Donc, le peuple est déchiré ou divisé sur cette diversité normative. Alors, je reviens. Donc, c'est une théorie qui a été élaborée par deux chercheurs qui ont, à ce moment-là, construit cette théorie. Et donc, nous revenons seulement discuter brièvement sur ces pactes symboliques, et plus que symboliques, mais qui ont exemplifié cette période de 80, des années 80 et 90. Je commence chronologiquement avec Juan Carlos à la mort de Franco. La gauche et la droite espagnole ont décidé à ce moment-là d'entrer dans un pacte. On ne le dit pas assez souvent, la monarchie espagnole ne joue pas un rôle, c'est Juan Carlos qui joue un rôle, parce que ça, c'est un processus de restauration monarchique, pas de continuité monarchique. La monarchie était déjà marginalisée deux fois avant dans l'histoire de l'Espagne, mais Juan Carlos, ayant vu l'exemple de la Grèce ailleurs, a joué un rôle tout à fait à l'avant-garde, et donc il a essentiellement modéré ce pacte. Et de là vient l'expression en espagnol « poder moderador » de Juan Linz. Donc, il s'agit de la restauration et il s'agit d'un pouvoir modérateur, symbolique, moral de Juan Carlos, qui a effectivement encouragé ce pacte. Je vais ensuite au Chili, qui est un cas tout à fait unique et inédit. Pourquoi ? Parce que la transition a commencé par un vote, contrairement aux autres transitions. Le pacte a commencé avec le vote du référendum. Et donc, nous avons des processus de démocratiques qui commencent avant même que la transition n'ait enclenché. Nous connaissons la suite. Et bien sûr, ce cas tout à fait emblématique entre Mandela et de Klerk. Ici, nous avons une majorité noire et une minorité retranchée, assiégé, qui n'a littéralement nulle part où aller. Ce n'est pas l'Angola, ce n'est pas le Mozambique. C'est une population qui est restée chez elle en Afrique du Sud et qui ne pouvait aller nulle part. Et donc, les deux font preuve de beaucoup d'intelligence et de sagesse et mettent en place ce pacte et nous connaissons la suite. Donc, je reviens à ces deux points, je commence par celui-là. Les démocraties de pacte ne sont pas parfaites, mais au fil du temps, la démocratie émerge, comme dans le cas classique de la troisième vague. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'appliquer cette théorie du pacte à cette ligne de clivage qui est constituée par le conflit entre laïcs et islamistes. Et donc, les islamistes comme les laïcs se tolèrent mutuellement par le biais d'élections, de partage du pouvoir, de compromis constitutionnels, créant une séparation laïque de facto entre la religion et la politique. Au début, on n'exprime pas, il y a quelque chose qui s'appelle en diplomatie, en négociation, l'ambiguïté constructive. On parle d'espace profane, on ne va pas parler nécessairement de sécularisme, mais au fur et à mesure qu'on avance, c'est bien de sécularisme qu'il s'agit. Maintenant, je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens érudits, puisqu'on est au Collège de France, et donc vous allez me dire, oui, mais attention, il y a eu d'autres modes de transition. Pourquoi est-ce que vous privilégiez ce mode de transition de le monde arabe ? Vous appliquez une théorie de pacte, alors qu'il n'est pas nécessaire ou qu'il n'est pas obligatoire que ces pays connaissent ce mode de transition. Il y a d'autres modes de transition. Effectivement, il y en a d'autres. Voici le Maïdan à Kiev, où, bien sûr, on voit toute la mobilisation qui, essentiellement, a bouleversé et qui a pris le pouvoir et qui a détruit le régime de Kouchma en Ukraine. Le problème est le suivant, c'est que ces modes de révolution qu'on appelle révolution sans couleur ou révolution colored revolution en anglais n'est pas un mode qui peut s'appliquer à notre région de MENA. Pourquoi ? La plupart des régimes autoritaires dans la région MENA sont fermés. Bon, c'est un peu trop exagéré, peut-être je dois mitiger. Disons qu'ils sont plus fermés, ce qui signifie qu'il n'existe pas de véritable concurrence politique. Et donc on ne peut pas avoir des colored revolutions dans la région MENA. Des régimes autoritaires compétitifs permettent des élections significatives, même si partielles, entraînant des révolutions de couleur. Ce n'est pas nécessairement le cas. Pourquoi ? Ce modèle d'élections compétitives et de système autoritaire compétitif émerge en fait après la guerre froide. Après la guerre froide, après la destruction de l'Union soviétique, beaucoup de régimes étaient obligés de s'adapter aux nouvelles conditions et donc ils ont décrété des élections, changé de constitution avant même qu'on leur demande de le faire, avant même qu'une opposition s'est structurée chez eux. Ils ont appris à absorber le changement et à repousser le changement, d'où ce nouveau modèle de élections compétitives. Dans les autocraties fermées, plus ou moins fermée. Plus fermée, il n'y a pas d'ouverture électorale pour un changement progressif. Les révolutions sont massives, soudaines, et ont l'intention d'imposer un nouvel ordre, ce qui implique que de nouveaux acteurs comme les islamistes occupent le devant de la scène. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger, hybridité et système autoritaire compétitif. Les systèmes hybrides peuvent, de temps à autre, permettre à des élections, comme au Maroc ou en Algérie. Mais ce n'est pas pour autant que ces élections sont compétitives. Il n'y a pas d'enjeu dans ces élections. Le seul enjeu, c'est la participation électorale. Et donc, c'est une distinction très importante. Tous ces régimes dont on parle dans la région MENA ont des contraintes qui sont imposantes et qui empêchent que l'on soit dans ces scénarios. Donc, ils sont très hégémoniques. Dans les monarchies, la personne du roi et l'institution dynastique, essentiellement, décale ou décentre certaines fonctions importantes et vitales et stratégiques comme la défense, même l'économie, de la fonction gouvernementale. Au Liban, il y a bien sûr la contrainte du Hezbollah qui empêche toute démocratie ou toute élection qui soit vraiment un enjeu. En Algérie, c'est bien sûr la présence de l'armée et le contrôle sur les hydrocarbures, etc. Donc, l'enjeu n'est pas de supplanter le gouvernement et d'essentiellement utiliser l'alternance pour arriver au pouvoir, ça devient la destruction du régime, pas de l'État, mais du régime, c'est-à-dire le réseau qui, lui, contrôle l'État. Donc l'argumentaire principal est celui-là. Vous avez une transition d'Omena qui, forcément, est une rupture révolutionnaire et donc l'élimination de l'autocratie. Il y a une impasse politique qui suit. Le conflit est insoluble entre islamistes et laïcs parce que les deux arrivent au devant de la scène, et après un moment de négociation et quand on réalise qu'il y a une parité, le pacte entre les concurrents rationnels se met en place et nous avons le début d'une transition, d'une nouvelle institution, début d'un partage de pouvoir entre les islamistes et les laïcs. Bon, différence aussi, c'est que ici le régime a quitté la scène. C'est-à-dire qu'il n'est plus là. En Amérique latine, c'est le régime qui rentre avec la gauche dans ces pactes. Ici, le régime dans MENA a quitté la scène. Et il y a des pans du régime qui peuvent rester, comme l'armée égyptienne, elle est là-haut, mais ce n'est pas elle qui rentre formellement dans les négociations. Donc, c'est le grand apport, enfin, l'apport que j'espère est important dans cette approche. Nous allons au cas tunisien. Le cas tunisien, le succès du pacte. Après la révolution du jasmin, les vainqueurs des élections d'octobre 2011 étaient Nahda, les islamistes, et le CPR de gauche et laïque Takatoul. Nahda a reconstitué ses réseaux sociaux juste après le départ de Ben Ali, après des décennies d'interdiction. En 2012-2013, des luttes intestines ont fracturé cette troïka et on a une coalition islamo-laïque divisé sur le langage constitutionnel à adopter pour la religion et le genre. Voici la fin du pacte ou l'issue heureuse du pacte. J'aime bien mettre des photos, ça met un peu de contexte. La gouvernance de la coalition et la négociation du pacte. Pourtant, face à l'impasse en 2012, rappelez-vous, Nahda et CPR et Takatoul ont fait des concessions, par exemple Nahda a reculé sur son utilisation de la charia et du genre dans la Constitution, tandis que Takatoul ont dû accepter la présence d'islamisme au sein des institutions républicaines. L'apprentissage politique a lieu, même après la quasi-panne de l'été 2013. L'intervention du quartet a été nécessaire, tant Nahda que les laïcs ont continué à faire des compromis afin de maintenir l'expérience démocratique en vie. Le parti laïque de Nida Tounes a même offert à Nahda un rôle dans son nouveau gouvernement après avoir remporté les élections octobre 2014, et bien qui n'avait pas à le faire. Je vais revenir après ce diapo à certaines. Je vais décider de rentrer dans un peu plus de détails parce que ce n'était pas quelque chose qui était simple et ce n'est pas quelque chose qui est fini en Tunisie. Donc, pourquoi Nahda et ses oppositions et ses opposants laïcs ont-ils choisi de coopérer et de négocier à partir de 2012 ? plutôt que de tenter une victoire maximaliste. Parce que cela était essentiellement détruire l'autre et se détruire mutuellement. Une société civile active aussi les craintes de violence de type algérien de la communauté internationale ont offert à une clé et une leçon, une leçon clé. Tenter de gagner à tout prix aurait pu entraîner le pire des résultats, à savoir une guerre civile. Assurer la stabilité à long terme a eu un prix non négligeable. Les ennemis ont dû accepter l'existence de la participation de l'autre. Donc je vais revenir très brièvement sur ce que je considère être des dates importantes dans la transition tunisienne. J'ai décidé de le faire ce matin parce que j'ai trouvé qu'on était peut-être un peu court pour montrer comment ce pacte a fonctionné. Donc, en Tunisie, rappelez-vous, 2011, c'est l'exit du régime Ben Ali. L'Assemblée se met en place et donc il y a des élections pour l'Assemblée, Constitutive Assembly, qui a lieu en octobre 2011. Si vous vous le rappelez bien, dans la période de 2011, il n'y avait presque pas de conflit entre Ennahda et Takatoul et CPR. Pourquoi il n'y avait pas de conflit ? Il n'y avait pas de conflit parce que tous les acteurs avaient comme principal intérêt d'institutionnaliser et de sauvegarder la révolution le plus vite possible pour garder le régime Ben Ali le plus loin possible pour empêcher qu'il retourne. Mais à partir de 2012, on commençait à avoir des tensions. Et donc, nous avons vu que la question de la place de la charia, le rôle de la femme dans la société et donc cet argument sur la complémentarité que Ennahda a avancé, et la cause sur le blasphème. Dans ces trois, sur ces trois questions, Ennahda a reculé alors qu'elle avait gagné les élections. Donc pourquoi elle recule ? Elle recule parce que le spectre de la destruction mutuelle était là. N'oubliez pas que l'Algérie est l'ombre de l'Algérie est quelque chose qui est très présente dans le Maghreb, au Maroc, aussi bien qu'en Tunisie. En mai 2012, les Tunisiens découvrent avec stupeur l'émergence de ce groupe, de ces salafis Ansar Sharia. On ne savait pas d'où ils venaient, littéralement. Et on supposait que Ennahda avait une main derrière ces groupes. Donc, malgré toute la tension, Ghannouchi recule. C'est bien là la preuve qu'il y a un compromis, qu'on ne veut pas tout gagner, on ne veut pas un agenda maximaliste. En 2013, nous avons l'assassinat de Choukri Belaïd en février, et donc la crise prend une tournure tout à fait grave. Les contacts sont carrément rompus. En août 2013, n'oubliez pas, en juin 2013, il y a le deuxième meurtre de Brahma ou de Brahmi qui intervient, qui a eu lieu. Et en 2013, vous avez la menace ou le spectre du coup d'État égyptien qui pèse lourd sur la transition. Néanmoins, 2014, encore, Ennahda recule. Qu'est-ce qu'elle fait, Ennahda ? Elle accepte de quitter le gouvernement. Elle accepte autre chose, un autre compromis maintenant avec Nidaa Tounes, qui n'est plus sur la sécularisation. Il est sur le rôle des Foulouls, des anciens régimes réunis autour de Nidaa Tounes, et elle accepte leur participation aux élections, ce qui est absolument incroyable. Elle accepte aussi de faire des concessions sur le rôle, sur le mode de scrutin, c'est-à-dire elle accepte un semi-présidentialisme, donc il y a encore des tractations de compromis entre les deux groupes. Et 2014, nous avons les élections parlementaires et un mois après les élections présidentielles, et là, Ennahda, pour rassurer, ne présente pas un candidat aux élections présidentielles. Donc, au moment même où Ennahda a gagné, elle décide de faire ou de céder du terrain alors même qu'elle a gagné. C'est la preuve qu'il y a un pacte, qu'il y a des tractations, qu'il y a un accord politique. Même chose du côté de Nidaa Tounes. Nidaa Tounes gagne après les élections, Et quand il gagne les élections, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tend la main à Ennahda et veut absolument la faire participer au gouvernement, alors qu'elle a gagné. Pourquoi Nida Tounes recule? C'est parce que le spectre de la destruction mutuelle et de la guerre civile est toujours là. Donc tout le monde continue à faire des compromis. Nous allons maintenant passer au cas égyptien et ensuite nous allons essayer de trouver ou essayer de, ensemble de dégager des conclusions sur ces pactes. Alors, une dernière chose. Rejeter l'exceptionnalisme tunisien. Je vous laisserai lire ce slide. Essentiellement, et la thèse que l'on avançait, c'est que la Tunisie ne pouvait que réussir parce que c'était programmé dans son ADN. Elle avait une culture politique propice à la démocratisation, elle avait une histoire de constitutionnalisme, puisqu'il y avait la constitution, une constitution qui avait déjà été mise sur place il y a 150 ans, et que, aussi, il y a un autre argument qui n'est pas là, que c'était un petit pays, donc plus facilement gouvernable. Seulement voilà, des thèses sur la tunisianité et l'exception tunisienne. Qu'est-ce qu'elle fait, cette thèse-là? En fait, elle évacue des conflits importants. Après tout, il y a eu une répression féroce contre les islamistes. Et il y a eu des explosions sociales en Tunisie qui ont induit l'intervention des forces de sécurité avec beaucoup de morts. Il y a eu aussi un clivage qui s'est constitué, le clivage entre Sahel et Dakhel, et qui était essentiellement maintenu à cause de l'exigence et à cause de l'hégémonie d'élites du Sahel. Et donc, l'exceptionnalisme est une thèse qui est inopérante. C'est vrai qu'il y a des avantages, qu'il y a une culture politique, mais il y a aussi l'agence des hommes et des femmes, des Tunisiens et des Tunisiennes. Du reste, l'argument sur la taille est un argument qui ne fonctionne pas. Il fonctionne quand il s'agit de pays qui ont moins d'un million. Quand vous faites des régressions statistiques sur des pays qui ont moins d'un million d'habitants, vous voyez que là, c'est vrai. Small is beautiful, comme on dit en anglais. Moins de gens, une population moins d'un million, c'est vrai que ça présente des avantages. Mais au-delà d'un million, les avantages commencent bien sûr à s'éteindre. Donc, je passe au cas égyptien. Le cas égyptien est l'échec du pacte. La politique de post-Moubarak en Égypte a opposé les islamistes, principalement les frères musulmans, et les supporters d'un mouvement de l'État laïque qui était Daoula Madaniya. L'armée égyptienne dirigée par le Conseil suprême des forces armées, SCAF, se tenait en faiseur de roi, en dehors de la politique. Contrairement à la Tunisie, les islamistes ont obtenu une majorité écrasante aux élections post-révolutionnaires, en novembre 2011, ne laissant aucun doute sur ce qui pouvait dominer. Alors, pendant 6 mois, je dois dire que ça m'a posé un gros problème. Pourquoi? Parce que si les acteurs du pacte sont les islamistes, the Muslim Brotherhood, et les laïcs, où est-ce qu'on met l'armée? Et ça, donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand on y réfléchit bien, on voit quand même que c'est peut-être une force tutélaire, mais qui est en dehors de la politique. C'est-à-dire, la biopolitique était entièrement entre les mains de Morsi. Morsi a géré avec la plénitude des pouvoirs le pays. Et donc, cette présence de l'armée, c'est comme une dalle verticale. Imaginez cette pièce. Bon, nous avons un plafond, c'est ça la dalle, et nous avons la dalle de soutenance qui est au-dessus. Ce qui nous permet d'agir, nous ici, de rentrer une grue, de faire des aménagements dans cette pièce, c'est cet premier plafond qui le dicte. Ce n'est pas la dalle. La dalle, elle est là que s'il y a un problème de soutenance. C'est la même chose pour Morsi. Morsi avait la plénitude des pouvoirs. Et la preuve en est, c'est qu'il a essentiellement mis en retraite anticipée Tantawi et Sami Anan. Et donc, il avait la plénitude du pouvoir. Il avait le pouvoir, mais pas l'autorité. Ce sont deux choses différentes. L'autorité, il ne l'avait pas. C'est vrai parce que les militaires lui rendaient la tâche difficile, mais surtout parce qu'il n'a pas su pacter avec les séculaires. C'est mon argument et finalement, j'ai retenu cette thèse. Alors, méfiance et asymétrie, militarisme. Tout au long de 2012, les négociations entre les frères musulmans et les militants de l'État islamique ont échoué sur la question constitutionnelle de la charia et du rôle de la religiosité au sein de l'État. La présidence de Morsi, après juin 2012, a amplifié le climat d'hostilité entre les deux. Et tout au long des interactions inégales, chaque parti a cherché à s'allier avec le SCAF dans l'espoir que l'armée aiderait à éliminer son rival. Donc, coup d'arrêt, nous connaissons la suite de l'histoire, c'est que le coup d'État de juillet 2013 a destitué Morsi de la présidence et anéanti toute opposition. L'armée égyptienne avait ses propres intérêts économiques et institutionnels et aurait considéré une démocratie non islamiste comme une menace égale. Donc, quand nous ne pouvons pas aller en Égypte, bien sûr, parce que là, ça aurait été encore beaucoup plus compliqué qu'en Tunisie, pour moi. Donc, j'ai interviewé pas moins que 50 frères musulmans de la direction et même des militants entre le Qatar et le Caire, et tous m'ont dit essentiellement la même chose. Ils m'ont dit, c'est vrai que les militaires nous attendaient au tournant. C'est vrai que les militaires ont réagi de la même manière, même avec une opposition laïque et séculière. Mais nous leur avons donné l'occasion. Nous avons mal su gérer notre relation avec les laïcs. Si nous avions bien géré, bien partagé le pouvoir, on aurait rendu ce coup d'État quasiment impossible pour les militaires. Donc c'est mon argument, comme vous le voyez. Donc, je vais dire très vite un mot sur la transition égyptienne. Un timeline, comme ça, ça nous met dans le contexte. Rappelez-vous, en avril 2012, à la différence de la transition tunisienne, les islamistes se sont rapprochés des militaires très tôt. Et ils ont accepté la proposition des militaires pour faire passer la constitution le plus rapidement possible. Cette constitution, qui est passée par référendum en mars, garantissait les enclaves de souveraineté militaire aux forces armées égyptiennes. Elle gardait essentiellement intact l'article 2 sur la religion et l'article 179 qui mentionnait explicitement la charia. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de débat. Ça veut dire que les frères musulmans se sont monopolisé le pouvoir pendant cette période. Et que pour eux, ce qui importait, c'était seulement l'accord des militaires. Ensuite, nous voyons qu'ils établissent ensemble une feuille de route à partir d'avril 2012. Et cette feuille de route, essentiellement, donnait satisfaction aux militaires. Novembre 2011, les islamistes gagnent une grande victoire. Et là, ce sont les militaires qui sont inquiets. Et donc, à partir de ce moment-là, à cause des demandes maximalistes militaires, nous sommes rentrés dans un zero-sum game, un jeu à somme zéro. Voilà. Et donc, tout le monde ne gagnait pas, c'est seulement une partie qui gagnait, et c'est l'erreur, justement, dans le pacte. Avril 2012, rappelons-nous, Morsi a violé sa promesse de ne pas présenter un candidat, ou plutôt les islamistes, dans les élections présidentielles. Et en juillet 2012, prenant peur, les militaires ont tout fait pour annuler la victoire, pour faire dissoudre le Parlement, qui est à majorité islamiste. Et donc, Morsi, essentiellement, réplique avec un décret dans lequel il ordonne à la justice d'ignorer toute toute révision de ces décrets sur la base du droit égyptien. Clairement, nous rentrons dans un engrenage où le pacte qui devait être préservé et devait être mis en pacte, en fait, se délite. Les laïcs se tournent vers l'armée à ce moment-là et l'armée utilise les laïcs pour rentrer dans le coup. Alors, je vais revenir à quelque chose très vite qui va nous clarifier, je pense, mon argument. Alors, vous vous rappelez de cet argument, la parité. Alors voilà, le problème en Égypte, c'est qu'il n'y avait pas de parité entre les laïcs et entre les islamistes. Parce que l'histoire de l'Égypte est telle que la société est moins sécularisée qu'en Égypte, qu'en Tunisie, que l'État égyptien construit sa légitimité en grande partie sur la religion, qui était différente de Bourguiba et de Ben Ali. Et en fait, c'était la même chose avec Sadat, qui lui a joué les frères musulmans contre la gauche et qui a introduit l'article 2 de la Constitution et l'article 79, lequel article 2 est devenu encore beaucoup plus lié à la religion dans sa deuxième formulation en 1980, c'est-à-dire 10 ans après son arrivée au pouvoir. Et aussi parce que les frères musulmans étaient tolérés par le régime égyptien. C'est vrai qu'ils faisaient l'objet d'une répression, mais n'oubliez pas que Moubarak les a autorisés à entretenir leur réseau d'ONG et d'aide caritative et de support et de solidarité avec la société. Il les a aussi autorisés à disputer les élections législatives, bien sûr, sous l'appellation d'indépendants et pas de frères musulmans en tant que tels. Donc, le frère musulman était mieux placé que Nahda une fois arrivé au pouvoir. Et donc, pour eux, il n'y avait pas de parité avec les laïcs. Et parce qu'il n'y avait pas de parité, les laïcs sont forcément tournés vers les militaires. Et donc, tout le monde avait cette fausse idée sur sa propre force, ce qui n'était pas le cas en Égypte. L'incertitude dans ces conditions est très importante, parce que l'incertitude encourage les pactes à se faire. Donc voilà pour l'Égypte. Donc, l'implication, un dernier mot avant de conclure, l'implication de la théorie des pactes pour le débat islamo-démocratie. Au-delà du débat théologique sur l'interprétation de la religion et de l'histoire, la démocratisation nécessite des négociations pratiques et l'incertitude électorale. Les islamistes peuvent être partisans de la démocratie, les compromis et une compréhension rationnelle des options les moins pires peuvent surmonter les rivalités islamistes laïques. Les caractéristiques des pactes réussis n'ont rien à voir avec la laïcité historique ou la tradition islamique, mais dépendent plutôt des conditions institutionnelles dans lesquelles les islamistes et les laïcs interagissent les uns avec les autres. Les conditions institutionnelles, pas seulement, parce que aussi les conditions politiques, parce que des fois on détruit des grands pans de l'ancien régime, des fois ils sont plus ou moins préservés. Donc, conditions institutionnelles et conditions aussi politiques. De là, on peut faire un peu de prognostications et on peut, avec une théorie ou avec cette nouvelle adaptation de la théorie, aller à d'autres endroits. On peut, par exemple, réfléchir à ce qu'une transition algérienne, à quoi elle ressemblera, en sachant que là, on se retrouve un peu dans le cas entre le cas tunisien et le cas égyptien. Nous avons la grande muette qui est moins forte qu'en Égypte et qui joue un rôle beaucoup plus intelligent. Nous avons aussi un mouvement islamiste qui a déjà subi une défaite et qui connaît la sensibilité et qui connaît l'aversion et la grande méfiance qu'a la population à l'égard de l'islamisme. Donc déjà, c'est quelque chose qui peut aider à la à une parité entre les deux. Bien sûr, nous pouvons aller aussi au Soudan. Donc, cette théorie du pacte démocratique entre islamistes et laïcs peut devenir pertinente pour de nouveaux cas aujourd'hui, comme l'Algérie et le Soudan. Elle peut aussi concevablement s'appliquer aussi aux monarchies, le Maroc et la Jordanie, qui peuvent ou qui sans doute connaîtront un jour des processus de démocratisation. La conséquence involontaire du pacte démocratique est de créer la théologie à travers la politique. Donc nous résumons. La théologie, c'est la politique qui dicte la théologie. Alors que les islamistes fondent leur compromis laïque dans la nouvelle doctrine créative qui remodèle leurs préférences religieuses. Vous avez vu, là, je n'ai pas franchement réconcilié la religion et le politique. Nous les avons tout simplement alignés. La réconciliation va venir bien après. Nous avons suturé, et vraiment avec du fil, des grosses ficelles, nous avons suturé la religion et la politique, mais c'est un début. Il est sûr que nous ne pouvons pas savoir. Nous sommes là, dans le cas autoritaire, là. C'est un cercle dans lequel l'État contrôle la religion, nous sommes dans un État autoritaire. Je ne peux pas vous dire ce que va ressembler la religion dans un État démocratique. Mais je peux vous dire que cette religion sera régie plus par l'État, mais par le peuple. On peut imaginer certaines congrégations de foi que les musulmans tunisiens ou autres contrôleront, qu'ils vont gérer d'eux-mêmes, et dont le rôle de l'État serait d'assurer, avec la législation, l'éthique du droit. Mais nous ne savons pas exactement, ce sont des contours, mais ce que je vous offre là, je vous offre un conduit qui est représenté par la transition, comment l'on passe de un à l'autre. Mais pas nécessairement ce que sera l'autre, mais quel est ce conduit qui peut nous amener à ce nouvel état de choses. Pour finir, Ennahda en Tunisie justifie la séparation de son aile spirituelle et du parti politique à travers une révision doctrinale, tahassus, spécialisation dans le but de faire avancer son akhlaq, son moral. Donc, après le changement politique et après le compromis politique, on doit bien sûr justifier cela sur des bases théologiques. Et donc, Ghannouchi le fait avec brio, tahassus et akhlaq, mais ce que je veux vous dire, que ce n'est pas nouveau en islam. En islam, nous avons par exemple, en Europe, là où il y a des contraintes politiques très exigeantes, où il y a des contraintes, nous voyons des théologiens parler de fiqh al-aqaliyyat, c'est-à-dire quand est-ce que porter le voile. On n'a pas besoin de porter le voile quand il faut prendre une photo sur un document de sécurité, parce qu'il faut se conformer à la loi de notre pays d'accueil. En islam aussi, nous voyons des principes qui ont émergé à cause d'une réalité et d'un impératif politique. Par exemple, toute la théologie de l'maqasid. Maqasid qui consiste à préserver din, al-nafs, al-nasab, al-mal, j'oublie le cinquième, c'est quelque chose qui vient en islam avec le grand alim Shatibi, qui lui répond à un impératif politique. Les musulmans, à un moment donné, ont besoin de vivre leur islam basé sur le temps et l'endroit. Et donc, ils ont des contraintes réelles. Et c'est là où ils explorent, c'est là où ils mettent en place, basés sur la foi et leur interprétation des textes, des nouvelles interprétations. On peut parler de la même chose, on peut évoquer par exemple un principe de siyasa shar'iyya. Une fois que l'islam a commencé à s'étendre dans son environnement, le calife était confronté à des situations tout à fait nouvelles, avec des considérations relevant des relations internationales. Et donc, le principe de siyash al-shari'a intervient et lui donne le droit d'empiéter sur le domaine des ulama, tout en étant conforme, bien sûr, au droit, mais nous le savons que dans la réalité, ce n'était pas toujours la même chose. Et donc, siyash al-shari'a est quelque chose qui émerge dans le fiqh, qui n'existait pas avant. Donc nous voyons que la religion a des ressources pour pouvoir s'accommoder des nouvelles réalités que vivent les musulmans. Parce qu'en fait, il s'agit, après tout, en islam, dans le fond de l'islam, de servir la maslaha des croyants. Voilà. Thank you very much. Merci.